Bonjour à tous, c'est mercredi déjà, 29 novembre 2017, décembre approche, mais météorologiquement parlant, ça ne paraît pas trop parce que c'est quand même assez doux. Bienvenue donc à l'émission Les Voix de service quotidien. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Je vous ai entendu entrer à Canal M en chantant « Oh, 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 oh » parce qu'on a des décorations de Noël, pas dans le studio vraiment, mais...
Pas encore dans le studio.
Non, ça va venir.
Absolument.
Ne vous découragez-vous pas, comme disait ou chantait la Bolduc. Mais on a un beau sapin pour nous accueillir et puis ça nous met un petit peu dans l'ambiance parce que le sapin est vraiment beau, là. C'est fait avec cœur parce qu'il y a des sapins qui nous touchent moins que d'autres, mais celui de... du 1001 Sherbrooke Est est très beau.
Mention
cinquième
spéciale
étage.
À José et à Mathieu qui ont fait un excellent travail hier de décoration.
Merci José et Mathieu.
29 novembre, vous serez content d'apprendre que l'ONU décrète le 29 novembre Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Parce qu'en 1947, suite à l'affaire du navire Exodus, où Londres avait refoulé des survivants de l'Holocauste, l'ONU adopta la résolution du partage de la Palestine entre un État juif, Israël, et un arabe, la Jordanie. Sinon, autre événement marquant, pour le 29 novembre en 1916, le Conseil national de la recherche du Canada est créé. En 1817, ayant remarqué deux enfants se transmettant un message via une poutre, donc l'un frappait dessus pendant que l'autre écoutait l'oreille collée sur la poutre à l'autre extrémité, Laennec, un médecin français, a l'idée d'appliquer cette technique, donc il enroule un cahier, puis pose le bout du cylindre ainsi formé sur la poitrine d'une patiente, et il écoute de l'autre côté. On vient d'inventer l'ancêtre du stéthoscope actuel.
Oh,
tout ça grâce à des enfants qui s'amusaient sur une poutre. En 1917, sur ordre d'Ottawa, la police de Montréal amorce la recherche des réfractaires au service militaire. 1924, toujours le 29 novembre, Montréal à l'angle Atwater et Sainte-Catherine, le Canadien bat Toronto 7-1 lors du premier match de hockey au Forum.
Go Habs, go!
1952, le prélat montréalais Paul-Émile Léger est nommé cardinal par le pape Pie XII. 1963, encore un 29 novembre, 4 minutes après son décollage de Dorval, un DC-8 d'Air Canada s'écrase à Sainte-Thérèse. On parle de 118 victimes, 118 personnes à bord qui ont perdu la vie. 1984, l'ONU annonce que quelque 300 000 Éthiopiens sont morts de malnutrition et manque de soins depuis janvier 1984, donc depuis près de deux ans. 29 novembre, c'est l'anniversaire de naissance de la romancière québécoise Marie Laberge, elle qui est née en 1950, donc elle qui a 67 ans aujourd'hui.
Oui.
Bonne fête, Madame Laberge.
Bon anniversaire.
Et 29 novembre, finalement, c'était il y a 16 ans aujourd'hui, le 29 novembre 2001, on perdait l'ex-Beatle George Harrison.
Ah, George. Merci, Jean-Sébastien. À la une de la presse aujourd'hui, exclusif, jeune conducteur, texto, alcool, Québec serre la vis, interdiction de conduire la nuit, nombre maximum de 3 passagers, le gouvernement Couillard adopte la ligne dure avec les jeunes conducteurs et il prévoit en outre tripler les amendes pour les automobilistes qui textent et imposer l'éthylomètre aux récidivistes de l'alcool au volant. Nouveau tir de missile, la Corée du Nord affirme que toute l'Amérique est à sa portée. La chronique de Marie-Claude Lortie, la future duchesse, la mode et Montréal. Les crimes haineux en hausse de 20 % au Québec. Et pause oxygène, bien s'habiller de la tête au ski. Exclusive donc, c'est un article de Denis Lessard, Québec serre la vis, le projet de loi en détail. Le projet de loi sur la sécurité routière proposera de tripler les sanctions pour les conducteurs qui se font pincer à texter au volant. Actuellement, les amendes au Québec sont de 100 $ pour une première infraction et de 200 $ pour une récidive. Elles passeront de 300 à 300 et 600 $ comme en Ontario. Il y a 2 ans, le ministre Poetti, sans projet de loi déposé, avait dû se limiter à des changements réglementaires. On avait accolé 4 points d'inaptitude à cette infraction. Aussi, conduite interdite la nuit, Québec va aussi imiter l'Ontario pour les titulaires de permis probatoires, deuxième année de conducteur, et les apprentis qui conduisent depuis moins d'un an et qui ont besoin d'être accompagnés d'un titulaire de permis valide. Pour ces derniers, Québec veut imposer une interdiction de conduire entre minuit et 5 heures. On s'est rendu compte que la plupart des accidents mortels surviennent dans cette période. En revanche, ils pourront conduire sur les autoroutes, ce que ne permet pas l'Ontario. Québec va aussi limiter le nombre de passagers pour les titulaires de permis probatoires. Ils sont déjà soumis à la tolérance zéro en ce qui concerne l'alcool. Québec compte mettre la barre à 3 jeunes passagers, ce qui correspond au nombre de ceintures de sécurité dans les véhicules. Cela a été l'hécatombe pour les jeunes sur les routes cet automne, une 15aine de décès pour septembre et octobre seulement. Et la tendance ne s'est pas renversée depuis pour les 15 à 24 ans. Pourtant, depuis 4 ans, le nombre de morts chez ces conducteurs avait diminué selon les bilans routiers publiés annuellement par la Société de l'assurance automobile du Québec. Ce nombre a baissé de 12,7% par rapport à 2015, passant de 55 à 48. Finalement, le projet de loi proposera aussi de forcer les récidivistes de l'alcool au volant à utiliser un éthylomètre avant de faire démarrer leur véhicule. Mère canadienne ayant séjourné au sein de l'EI. Après des années passées sous le joug du groupe armé État islamique EI, au moins 4 Montréalaises souhaitent revenir au Canada avec leurs enfants nés chez les djihadistes. Les djihadistes, a appris la presse, ce n'est que le début de la vague, prévient un expert. Comment accueillir ces revenantes alors que la Gendarmerie royale du Canada, GRC, est en pleine course contre la montre, Justin Trudeau ne se fait pas apôtre de la ligne dure, prônant plutôt la déprogrammation. L'épineuse question du retour au Canada des émules de l'EI se posait de manière de plus en plus pressante récemment. Elle a pris une tournure plus concrète hier avec le cas de cette Montréalaise mère de 2 enfants qui a officiellement entrepris des démarches pour rentrer au pays. La première d'une série, prévient Phil Gursky, ancien analyste au Service canadien du renseignement de sécurité. Elles sont entre la raison et la peur. Elles ont subi un lavage de cerveau, dit Herman de Paris Okomba, qui est, lui, le directeur du Centre de prévention de la radicalisation. Et puis, avec ces cas concrets, le retour des femmes et de leurs enfants vient de passer de la théorie à la pratique pour Ottawa. L'EI a spécifiquement former des combattants canadiens pour revenir au pays et terroriser nos communautés. Et les libéraux le savent depuis 2 ans et n'ont rien fait. Pourquoi le premier ministre déploie-t-il autant d'efforts sur les services de réintégration au lieu de mettre ces individus en prison? C'est la question que pose Andrew Scheer, chef du Parti conservateur. Ses propos ont piqué au vif M. Trudeau, qui dit croire qu'il ne faut pas abandonner l'espoir de déprogrammer les ressortissants canadiens qui ont adhéré à l'idéologie djihadiste. Une source confidentielle citée précédemment note que le gouvernement libéral tient particulièrement à la réhabilitation des jeunes mères. L'éditorial d'Alexandre Sirois, cessez de tolérer l'intolérable. Simon, c'est mon frère. Simon, c'était un grand gars hyper énergique qui s'embarquait dans plein de projets, toujours en train de faire des blagues, de jouer aux jeux vidéo ou de faire de la musique. Ce portrait de Simon Dufour, qui s'est suicidé la semaine dernière, est celui offert par sa sœur Karine dans un message sur Facebook devenu viral. Mais aux yeux de certains élèves de l'école qu'il fréquentait à Longueuil, Simon était plutôt, semble-t-il, le bouc émissaire, celui qu'on prend plaisir à tourmenter. Ne sautons pas aux conclusions trop rapidement, on ne sait pas encore si ce suicide est lié directement à l'intimidation. Une enquête est en cours pour en déterminer les causes. Le père du garçon affirme d'ailleurs que la situation semblait s'être améliorée au cours des derniers mois. Ce qu'on sait toutefois, c'est que Simon avait été intimidé au primaire et que ce harcèlement s'était poursuivi au secondaire. On sait aussi que le père de Simon dit l'avoir signalé à la direction de l'école et n'a pas été satisfait par les réponses obtenues. Parfois, des drames affligeants permettent à des sociétés de braquer leurs projecteurs sur des problèmes fondamentaux qui ne font plus la manchette. C'est ce qui est en train de se produire depuis la mort de Simon. La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, estime que l'annonce de la fermeture d'une trentaine de journaux et le licenciement de près de 300 employés à quelques semaines de Noël sont une décision cynique de la part de Post Media et de Torstar. Interpellée par le nouveau Parti démocratique à la Chambre des communes hier, 24 heures après cette annonce qui illustre la saignée qui frappe l'industrie de la presse écrite au pays, la ministre Joly s'est dite choquée du moment choisi par les deux entreprises pour mettre fin à la publication de plusieurs journaux. Tout le monde a averti la ministre de la crise qui arrivait et nous lui avons proposé des solutions concrètes clés en main. Le bateau coule et l'orchestre libéral continue de jouer comme si de rien n'était. Il me semble que j'ai déjà vu ce film-là et il ne finissait pas bien, a dit le député néo-démocrate Pierre Nantel. Les quotidiens gratuits, Métro Ottawa, Métro Winnipeg, 24 heures Toronto et 24 heures Vancouver, ainsi que les journaux payants, Barry Examiner, Belleville News, Stillsville News et Kent West News font partie des publications que Post Media et Torstar vont fermer. Un prédateur sexuel endurci emprisonné aux États-Unis pour de sordides agressions sexuelles sur des femmes droguées à leur insu a été reconnu coupable hier à Montréal d'avoir fraudé son ami de cœur pour 100 000 $. Le Montréalais Georgie Spitzer lui avait fait croire qu'il allait investir cette somme pour elle en Europe. Or, il a plutôt flambé le magot en quelques mois. Selon lui, il s'agissait d'un cadeau pour marquer sa confiance et son affection. Or, le juge Patrick Healy a plutôt cru la version des faits de la femme et a conclu qu'il s'agissait ainsi d'un stratagème frauduleux de la part de l'accusé. Georgie Spitzer, 61 ans, fait aussi face à la justice pour une affaire d'agression sexuelle en 2013 à Montréal. Dans les années 90, son frère jumeau, Stéphane, et lui avaient écopé d'une sévère peine d'emprisonnement pour avoir drogué 5 jeunes femmes puis filmé leur viol. Québec investit une enveloppe récurrente de 15 millions afin d'embaucher 100 nouveaux psychologues pour servir la clientèle jeunesse, notamment afin de diminuer à moins de 30 jours le délai d'attente pour qu'un jeune dont le dossier est judiciarisé soit évalué. 67 de ces postes seront dans le secteur de la première ligne, alors que 32 postes seront consacrés au service de la protection de la jeunesse, a annoncé le ministre de la Santé Gaétan Barrette hier à Québec. Nous estimons que nous allons réduire de façon très significative le temps d'attente dans la première ligne pour une raison bien simple. Elle est mathématique. On augmente de plus du tiers les ressources disponibles à la population jeunesse, tant en première ligne qu'en soins spécialisés, a-t-il affirmé. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me.
16e anniversaire du décès de George Harrison, lui qui est disparu le 29 novembre 2001. C'était bien sûr les Beatles avec la pièce Something, tirée de l'album Abbey Road, une pièce qui a été signée par M. Harrison.
En une du devoir de ce mercredi, le ministre des Anciens combattants, Seamus O'Regan, est allé faire la collade au premier ministre Justin Trudeau après son discours, durant lequel il a présenté les excuses du Canada aux membres de la communauté LGBTQ2. Alors, une photo illustre cette accolade. Les pro-armes renoncent à manifester au mémorial de Polytechnique. Art visuel dans l'œil de Pierre Durie. Le photographe, nourri par le cinéma, ne jure plus que par la peinture. On voit une photo en noir et blanc d'un jeune Yvon Deschamps accompagné d'une jeune Diane Dufresne, photographiée par Pierre Durie. Monsun quittera Montréal. La brasserie délaissera ses installations construites en 1786 pour élire domicile à Longueuil. Pétrole, le projet Bourque en Gaspésie serait exploité par fracturation. Éthique, Bill Morneau défie ses pourfendeurs de renoncer à leur immunité. En 1969, le Canada décriminalisait l'homosexualité, mais cela n'a pas empêché le gouvernement fédéral de traquer les gays et lesbiennes dans ses forces armées et sa fonction publique pour les forcer à démissionner. Le gouvernement de Justin Trudeau s'en est officiellement excusé mardi, offrant du même souffle 110 millions de dollars en compensation et un projet de loi pour radier les casiers judiciaires anachroniques. Le chef de file des Goonies québécois, Guy Morin, a cédé à la pression populaire en annulant mardi soir le rassemblement prévu sur la place du 6 décembre 1989 à moins de 5 jours du 28e anniversaire de la tuerie de l'École Polytechnique. Le coordonnateur du groupe « Tous contre un registre québécois des armes à feu » a du bout des lèvres présenté ses excuses aux personnes indignées par l'organisation d'une manifestation pro-armes au pied du monument commémoratif aux 14 femmes tombées sous les balles de Marc Lépine le 6 décembre 1989. Il a avoué avoir sous-estimé la réaction populaire à un outrage de la sorte. « S'il y a des gens qui sont offusqués, à ce point-là, oui, correct, je m'excuse », a-t-il lâché dans l'une des dernières entrevues qu'il a accordées mardi. Mais ce n'est pas une erreur. Du coup, la manifestation aura lieu ailleurs, a-t-il indiqué. À Ottawa, à Québec et à Montréal, les voix se sont élevées afin de demander aux membres de Tous contre un registre québécois des armes à feu de faire marche arrière, un geste inutilement provocateur et cruel. Peu importe le débat ou les arguments, il faut d'abord penser aux familles des victimes de Polytechnique, a fait valoir le premier ministre canadien Justin Trudeau. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a appelé les organisateurs à faire preuve de discernement et à revisiter leur stratégie. « Ce n'est ni l'endroit ni le moment », a-t-elle répété, sans pour autant leur forcer la main. « Ils ont le droit de manifester s'ils respectent la réglementation municipale », a-t-elle précisé à la presse. Éditorial sous la caricature de Pascal qui nous montre le pape, discours du pape au Myanmar et puis dans une bulle, comme une bande dessinée. Le pape est en train de lire une sorte de mot mystère et les lettres qui ressortent de ce mot mystère sont évidemment R-O-H-I-N-G-Y-A-S, Rohingya. C'est drôle, mais c'est pas vraiment drôle. Le français de nos jeunes entrepreneurs. Une lettre signée Pierre Lincourt-Chicoutimi le 27 novembre 2017. Chaque génération, peu importe le nom qu'on lui donne, se démarque de la précédente de différentes façons. Les jeunes d'aujourd'hui, baignés dans la technologie dès leur jeune âge, ont développé une vision entrepreneuriale qui, appuyée d'une connaissance très pointue des réseaux sociaux, les amène très tôt dans leur parcours professionnel à faire des affaires partout sur la planète, et cela sans complexe. Ainsi, nous avons pu voir, lors de la plus récente mission de Tout le monde en parle, trois jeunes qui ont lancé des entreprises sur Internet et qui connaissent beaucoup de succès. Alors, ils parlent de mission. Peut-être aurait-il fallu écrire la plus récente émission, mais ici, c'est écrit mission. Incroyable ce que nos jeunes peuvent être créatifs. Ces jeunes influenceurs sont très impressionnants, beaucoup plus que notre génération à leur âge. Cependant, ils semblent très vulnérables à l'intrusion de l'anglais dans leur vocabulaire. Ainsi, on a entendu en quelques minutes, j'ai été « turn off », il est « relevant », accumuler des « like », « poster » et un « post ». Ils marketent de cette façon des « aussi », des « nice » et j'en passe. Mais nous leur léguons cet héritage qu'est la langue française et nous espérons qu'ils sauront la conserver tout en continuant de développer des compétences linguistiques dans plusieurs langues, notamment en anglais. Ce contact continu avec d'autres langues exige cependant une vigilance et une volonté de bien parler sa langue maternelle. La langue et la culture sont l'héritage passé d'une génération à l'autre depuis notre arrivée sur ce continent, et il faut continuer à le léguer à la prochaine génération tout en essayant de le bonifier. La nouvelle enquête SIMU révèle que parmi les personnes disant avoir subi de la violence sexuelle depuis leur arrivée à l'Université Laval, seulement 6% ont signalé ou dénoncé ces gestes. Parmi les participants à l'étude, une personne sur quatre dit avoir subi une forme ou une autre de violence sexuelle. Chez les femmes, 47% des étudiantes en ont été victimes, alors que chez les hommes, on parle de près d'un étudiant sur trois. Fait à noter, la proportion de personnes victimes est aussi importante chez les membres du personnel que chez les étudiants, 4 personnes sur 10. Mené auprès de près de 2000 répondants, le sondage a été réalisé avant les agressions perpétrées aux résidences de l'Université Laval, soit en janvier 2016. Il s'inscrit dans l'enquête indépendante Sexualité, sécurité et interaction en milieu universitaire, SIMU. Lorsque les victimes sont des étudiants, les résultats montrent que les agresseurs sont aussi majoritairement des étudiants, 71%, suivis des professeurs, 21%, et d'autres types d'employés, 15%. Les types de violences répertoriées comprennent le harcèlement, les comportements sexuels non désirés, y compris les agressions, et la coercition sexuelle, chantage en retour de récompense dans le milieu. Du côté des associations étudiantes, on voit dans ces résultats une raison de plus pour agir vite en ces matières. Ce sont des constats qui sont graves, note le président de la Confédération des associations d'étudiantes et d'étudiants de l'Université Laval, Samuel Rouette-Fizet. Ça vient faire ressortir le caractère urgent de la chose. Du côté de la direction de l'université, on a salué le travail de l'équipe de chercheuses et dit être déjà au travail pour élaborer une politique visant à contrer les violences sexuelles. Et la création d'un comité d'examen des décès liés à la violence conjugale n'est qu'un premier pas. Dès 2018, le coroner en chef dirigera aussi un groupe chargé d'étudier les décès d'Autochtones au Québec, a appris Le Devoir. Il y aura une annonce au début de l'année, a confirmé mardi la coroner en chef du Québec, Catherine Rudel-Tessier. Elle a déjà approché le groupe Femmes autochtones du Québec, mais a averti que le comité n'était pas encore formé. Le milieu y croit très bien aux interventions qui peuvent en ressortir, aux stratégies qui peuvent être inventées pour qu'on fasse quelque chose, a-t-elle ajouté, se félicitant du succès du comité d'examen des décès d'enfants et de la création du comité sur la violence conjugale. « Vous écoutez les voix de service quotidien. Je vous souhaite un agréable mercredi, 29 novembre 2017, le dernier mercredi de novembre. Ici Hélène Denis, on se retrouve après la pause et la chanson.
La très sage Marjo qui nous affirme avec raison que il y a des matins.
En une du Journal de Montréal, elle parle français, travaille et étudie fort, une immigrante entre guillemets parfaite expulsée. Léonie Pavitra Lawrence, 21 ans, devra retourner au Sri Lanka dimanche à moins d'une intervention contraire de Justin Trudeau. Une lettre en anglais du PLC. et 90 policiers sur 15 000 pour détecter le pot. D'abord en page 2, des machines distributrices de marijuana. Une entreprise montréalaise fait des représentations auprès du gouvernement Couillard pour que sa machine informatisée de distribution de pot soit adoptée par les futures succursales de la Société québécoise du cannabis pour servir les clients. Selon le plan actuel de la compagnie, ces machines seraient installées derrière le comptoir de vente des succursales de la Société québécoise du cannabis, SQC, et aiderait le commis à obtenir rapidement la variété de marijuana que le client désire en appuyant sur un écran tactile. L'entreprise en est présentement à programmer son logiciel pour que soient intégrées certaines variétés populaires de cannabis avec leurs caractéristiques respectives. La machine est d'origine allemande, mais son logiciel est modifié au Québec par VDMS pour répondre à la réalité locale. Si l'appareil implique un certain coût, le président de la compagnie, qui s'appelle Marco Panampede, assure que le gouvernement sauverait temps et argent dans la formation des employés et dans la distribution du pot. Alimentation Couche-Tard a d'ailleurs été charmée par l'idée et tente présentement une expérience semblable avec des machines distributrices de cigarettes installées dans 9 de ses magasins. À 7 mois de la légalisation du cannabis, seulement 90 des 15 000 agents de police québécois sont en mesure de détecter les conducteurs qui ont consommé de la drogue. Et leur répartition sur le territoire est très inégale. Alors, on a la photo du territoire. Montréal, SPVM, 10 sur 4 846. Sûreté du Québec, 31 sur 5 525. C'est le nombre d'agents évaluateurs par le nombre total de policiers. Et parmi les corps policiers complètement dépourvus d'agents d'évaluateurs, on compte celui du Nunavik de Châteauguay de la MRC des Collines, ainsi que les services de police autochtones comme celui de Mashtuach. J'ai toujours de la difficulté à prononcer ce mot. M-A-S-H-T-E-U-I-A-T-S-H. Alors, prononcez-le dans votre tête, chez vous à la maison. À Châteauguay et dans la MRC des Collines, on espère avoir 2 experts pour leurs services respectifs d'ici la légalisation. Les municipalités peuvent faire appel à la Sûreté du Québec, qui compte 31 agents évaluateurs pour toute la province, précise le porte-parole Hugo Fournier. Il n'a toutefois pas pu révéler la répartition par région. En juillet, la SQ aura 16 agents de plus. Le Parti libéral du Canada a envoyé une lettre des fêtes en anglais seulement à des foyers québécois pour solliciter des dons, un véritable manque de respect selon des groupes de défense de la langue. Le bureau central du Parti libéral du Canada à Ottawa n'a pas cru bon traduire en français son invitation à partager sa fierté canadienne en cette saison des fêtes, postée à au moins 2 citoyennes de Montréal et de Laval. Les destinataires n'étaient pas membres ou sympathisantes libérales et ne portent pas de nom à consonance anglophone. Elles ignorent pourquoi on leur a envoyé cette documentation non sollicitée, datée du 17 novembre et transmise au Journal de Montréal. Ce genre d'erreur est inexcusable. Comment peut-on aujourd'hui ne pas comprendre que le Québec est français, s'insurge Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français. Le PLC a assuré que les lettres transmises au journal constituaient des erreurs qui arrivent rarement. Il n'a pas été possible de savoir combien de foyers francophones avaient été classés comme anglophones par le parti. Une Abitibienne porte la flamme en Corée. L'actrice de 29 ans travaille en Asie depuis 4 ans. Une actrice originaire d'Abitibi a séduit la Corée du Sud en portant la flamme des Jeux olympiques qui auront lieu à Pyeongchang en février. Ariane Degagné-Leclerc est originaire de Rouyn-Noranda et parle couramment le coréen, le mandarin et le japonais. Elle est actrice depuis 4 ans en Corée du Sud et a eu la chance de transporter la flamme olympique sur un tronçon de 200 mètres hier. Contrairement à plusieurs autres porteurs qui sont souvent timides, elle a surpris par son dynamisme et elle s'est amusée avec la foule. Les gens qui portent la flamme sont souvent intimidés parce qu'on court derrière quelques 40 caméras, a-t-elle dit. Mais j'étais là pour représenter le Canada en Corée, alors j'en ai profité pour faire participer la foule. À mi-parcours, elle s'est mise à crier en français. « Au Canada, vous avez une Québécoise qui court pour les Olympiques. Salut, salut la gang au Québec », a-t-elle scandé. Le ministre des Finances a menacé de poursuivre les partis d'opposition hier s'ils répètent en dehors des communes leurs allégations de délits d'initiés à son encontre. Très tendu, il a refusé de répondre aux médias en français. « S'ils répètent en dehors de la Chambre leurs accusations, je vais absolument leur montrer comment fonctionne le système judiciaire », a averti Bill Morneau, visiblement agacé par l'affaire lancée par les conservateurs aux communes lundi. À la Chambre des communes, les députés bénéficient de l'immunité parlementaire. Fait étonnant, le ministre, qui s'exprime toujours un peu en français, a refusé de répondre aux questions des médias dans la langue de Molière. « Ce n'est pas en faisant des menaces comme ça qu'il va clarifier la situation », a répliqué le député conservateur Alain Reyes, prenant bien soin de ne pas répéter les insinuations de son parti. Les conservateurs ont laissé entendre que M. Morneau avait vendu le 30 novembre 2015 un bloc de 680 000 actions de Morneau-Chappell quelques jours avant de présenter une mesure fiscale qui a fait chuter la valeur du titre, sauvant du même coup 500 000 $. Concert à la mémoire de Pierre Péladeau, plus de 1000 personnes étaient réunies à l'église Saint-Jean-Baptiste située sur la rue Rachel-Est à Montréal. Le concert a rendu hommage à un grand mélomane et à un homme d'exception qui nous a quittés il y a près de 20 ans. Il y a beaucoup, beaucoup de photos dans le tout partout en ville de Roger Brulotte, entre autres Pierre-Carl Péladeau, président et chef de la direction de Québécois, son frère Éric, membre du conseil de Jean de Québécois, dis-je bien, ont remis à leur frère Jean B. la baguette de direction que M. Péladeau a utilisée lors du concert qu'il a dirigé au profit de l'Orchestre métropolitain en 1992. Hélène David, ouverte à bannir patrimoine. Le mot est mis entre guillemets. C'est une réflexion. Désolée. C'est une réflexion qui est de son temps, de masculiniser, de féminiser. Je trouve que ça vaut la peine de se poser ces questions, a affirmé Mme David, responsable de la condition humaine à la sortie du caucus libéral hier. Ça a son intérêt linguistique et son intérêt en lien au matriarcat et au patriarcat. Ce sont de grandes réflexions. Il y a toute une réflexion autour de la grammaire française aussi. La masculinisation, la féminisation en France, ça fait des débats énormes, a-t-elle ajouté. Le journal a rapporté hier que Québec solidaire souhaitait remplacer le terme « patrimoine » par « héritage culturel ». C'est un mot qui, dans sa racine, réfère à une forme de présence et de domination du masculin. L'héritage culturel, c'est autant les hommes que les femmes qui nous l'ont laissé, a affirmé la députée Manon Massé en entrevue avec le bureau parlementaire. Cette question sera débattue lors du congrès de QS où la plateforme électorale du parti sera adoptée. Le débat lancé par QS n'a pas fait que des heureux. Le candidat péquiste dans Prévost, Paul Saint-Pierre Plamondon, a raillé. Il faudrait aussi de toute urgence interdire l'expression « Père Noël » pour la remplacer par « être en rouge avec des cadeaux », a-t-il écrit sur les médias sociaux.
C'était la nouveauté des trois accords. Noël est arrivé.
Déménagement historique annoncé après 2 ans d'incertitude. Le coup près est tombé hier. Molson va quitter ses installations montréalaises de la rue Notre-Dame pour construire une nouvelle brasserie à Longueuil. 5 choses à savoir sur cette annonce qui tourne une page d'histoire. C'est dans la presse aujourd'hui. L'usine Molson, située au 1555 rue Notre-Dame-Est, tourne à plein régime depuis 231 ans. S'il ne subsiste pas grand-chose de l'édifice original qui a été en grande partie détruit en 1852 par un incendie, on a constamment agrandi ce complexe aujourd'hui composé de bâtiments hétéroclites. Quelques 700 employés s'y produisent plus d'une trentaine de marques de bières différentes pour un... Quelques 700 employés y produisent plus d'une trentaine de marques de bières différentes pour un volume hebdomadaire d'une centaine de milliers d'hectolitres, essentiellement destinés au marché québécois. Malgré d'importants investissements, notamment de 52 millions en 2012, une étude a conclu en 2016 que la modernisation du complexe n'était pas réaliste. On était sur le site depuis 1786. Il nous fallait des installations dignes du 21e siècle, estime François Lefebvre, porte-parole de Molson Coors Canada. La mairesse Valérie Plante l'a rappelé hier. Montréal a présenté plusieurs offres pour garder l'usine Molson sur son territoire, dont une offre récente bonifiée dont la teneur n'a pas été révélée. L'entreprise a étudié une demi-douzaine de terrains dans l'île, notamment dans la future cité de la logistique entre l'avenue Souligny et le port de Montréal dans l'est de la métropole. Il était important pour Molson de trouver un terrain assez grand pour regrouper ses activités de distribution, actuellement installées dans un immeuble loué de la rue Dixon et son usine brassicole. Le projet de déménagement est évalué à 1,5 milliard. C'est finalement Longueuil qui a emporté le morceau. Situé à proximité de l'autoroute 30 et de la route 116, traversé par une voie ferrée et à moins de 200 mètres d'une gare de train près de l'Agence spatiale canadienne, le futur terrain de l'usine Molson bénéficiera d'un congé de taxes de 5 ans dans le cadre d'un programme mis sur pied en septembre dernier. À titre de comparaison, Molson a payé 2,6 millions en taxes municipales à Montréal en 2017. Hier, l'entreprise a annoncé avoir déposé une offre d'achat, on ignore le montant précis, qui sera soumise au conseil municipal le 5 décembre pour les terrains qui totalisent 6,2 millions de pieds carrés. Les travaux pourraient commencer le printemps prochain et l'usine pourrait être opérationnelle en 2021. Que faire du complexe plus que bicentenaire de la rue Notre-Dame-Est? Tous reconnaissent sa valeur patrimoniale et Molson assure vouloir rester sur le site. Il s'agit de déterminer avec la ville et la population quel sera notre legs, précise le porte-parole François Lefebvre. Parc, musée, petite brasserie, accès aux berges du Saint-Laurent, il y a différentes options et toutes sont sur la table, dit-il. Quant au déménagement, il ne devrait pas apporter de changement significatif à la production de l'entreprise. Comme pour l'ancienne usine, les installations longueuilloises sont destinées à approvisionner le marché québécois. Et ne vous inquiétez pas, le goût de la bière que vous aimez va être le même, assure-t-il. Molson Coors en chiffres, 18 000 employés, dont 1 500 au Québec. Vente annuelle de 10,98 milliards US, moins 2,3 % sur un an. 96,2 millions d'hectolitres de bière produits. Part de marché au Canada, 34 %. Marché canadien, 56 % en canette, 34 % en bouteille, 42 % et 47 % respectivement en 2012. Brassage et empaquetage, 34 installations, 12 aux États-Unis, 12 en Europe, 7 au Canada, 3 en Inde. Source de ces chiffres, état financier, 4e trimestre 2016. Réaction partagée. Excellente nouvelle, léger soulagement. Grosse perte, le déménagement annoncé de Molson sur la rive sud a suscité de nombreuses réactions de part et d'autre du fleuve. Joie à Longueuil, c'est une excellente nouvelle. Molson a une notoriété incroyable, ça vient mettre notre zone aéroportuaire en avant-plan. Les promoteurs vont réaliser que nos incitatifs sont là et surtout que nos terrains sont prêts et libres de toute contamination. On a un nouveau réservoir d'eau potable qui est prêt à desservir des compagnies comme Molson. On a nos infrastructures de rue qu'on a améliorées. Pour ce qui est du transport en commun, le RTL est déjà en mode réflexion. Molson va nous identifier leurs besoins et la provenance de leurs employés pour faire la planification du transport. On est très content que Molson ait choisi une ville qui fait partie de la communauté métropolitaine. Ils auraient pu choisir d'aller à l'extérieur, dit Sylvie Parent, mairesse de Longueuil. Déception à Montréal. Malheureusement, l'offre bonifiée que nous avons soumise n'a pu être étudiée par le conseil d'administration de la brasserie Molson Coors, qui avait déjà pris sa décision. On ne peut pas nier le fait que la Molson est intimement liée à Montréal et que Montréal est intimement liée à la famille Molson. Et je sais que la famille Molson le comprend très bien. Alors maintenant, on doit voir comment on va travailler pour redévelopper le site. Il y a tellement de potentiel pour un quartier familial, c'est une occasion en or de redévelopper le centre-sud, a dit Valérie Plante, mairesse de Montréal. Depuis l'élection, et même avant, il y avait des craintes du milieu des affaires face à Projet Montréal. Et aujourd'hui, on voit un premier échec de l'administration Plante-Doré sur les enjeux de développement économique, dit Lionel Pérez, chef de l'opposition par intérim. C'est très positif. La communauté d'affaires voit les métropoles comme étant des zones métropolitaines. Quand on dit que Bombardier a des installations dans telle ville, personne ne se préoccupe de savoir si c'est à l'intérieur des limites de la ville-centre. Ce qui est important, c'est que cet investissement ait lieu ici et dans des conditions optimales pour la pérennité des installations de l'entreprise, dit Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. C'est une grosse perte. Cet investissement de Monsun aurait généré d'autres investissements dans l'est de Montréal, comme la réfection de la rue Notre-Dame, qui est dans un état lamentable. Le drame, c'est qu'on perd des emplois et que les sous-traitants vont peut-être aller s'installer sur la rive sud. Les terrains contaminés, c'est une fausse raison. Ce n'est pas compliqué de décontaminer un terrain. On l'a fait sur Angus, dit Christian Iaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus. Nous sommes déçus que nos interventions ainsi que celles des élus auprès de l'entreprise n'aient pas porté leurs fruits. Ce nouveau départ d'une grande entreprise de l'Est de Montréal envoie une fois de plus le signal qu'il nous faut mettre en œuvre une stratégie de relance économique qui sécurisera nos pôles d'emploi et qui mettra en place les conditions pour attirer de nouvelles entreprises sur le territoire, dit Christine Fréchette, présidente directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, par communiqué.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien le porc qui dort.
Dans la presse, voyage, les aubaines de la semaine, c'est Yveline Audet, vol, forfait, tout inclus, escapade. Chaque semaine, notre journaliste repère pour vous les meilleures aubaines de la semaine. Pris en vigueur hier, peuvent changer sans préavis. Alors, Francfort en Allemagne, vol aller-retour Montréal-Francfort, escale à Reykjavik, 439,98 $ par personne, taxes incluses, frais de bagages en su, du 15 janvier au 16 février avec Wow Air. Aussi, Chicago, vol aller-retour Montréal-Chicago, escale à Toronto, 286,85 $ par personne, taxes incluses, frais de bagages en su, du 10 janvier au 14 avril avec Porter. Et dernière suggestion, puisque je n'ai plus le temps, ou presque, Ho Chi Minh Ville au Vietnam, vol aller-retour, escale à Chicago et Tokyo, à l'aller et à Tokyo et Denver au retour, 758,65 $ par personne, taxes et frais inclus, du 9 janvier au 29 mai avec United Airlines.
On vient d'entendre la Canadienne Roxane Potvin avec la pièce « I Thought I'd Miss You ».
Les actualités internationales. Chine, les dirigeants de la ville de Pékin ont lancé une vaste campagne d'expulsion qui cible les migrants arrivés d'ailleurs au pays, provoquant un certain émoi public face au traitement réservé à ceux dont la capitale chinoise a besoin pour ériger ses gratte-ciels, prendre soin de ses enfants et pourvoir des postes mal rémunérés. Des travailleurs interrogés par l'Associated Press ont fait état de familles entières chassées de chez elles, souvent avec seulement quelques heures d'avis. Plusieurs n'ont eu d'autre choix que d'empiler tout ce qu'elles pouvaient emporter à bord de camions surchargés et d'abandonner le reste derrière elles. La ville a lancé la semaine dernière une campagne de 40 jours pour chasser ceux qui habitent des immeubles jugés non sécuritaires après qu'un incendie eut tué 19 personnes qui habitaient des appartements loués principalement par des migrants pauvres. Proportion des médicaments offerts, Allons-y, santé, 11%. Proportion des médicaments offerts dans les pays en voie de développement qui sont des faux, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ceux-ci sont probablement responsables de la mort de dizaines de milliers d'enfants qui ont succombé à des maladies comme le paludisme et la pneumonie. Une petite commune de Laponie, norvégienne, a été secouée hier par un grand déballage au sujet d'agressions sexuelles massives exhumées grâce aux témoignages de victimes après une très longue défiance envers les autorités. Au terme d'un an et demi d'enquête, la police a annoncé avoir mis au jour plus de 150 cas d'agressions sexuelles, y compris sur de très jeunes enfants, étalés sur plusieurs décennies, dans une commune de moins de 2000 habitants nichée au-dessus du cercle polaire arctique. L'affaire a provoqué une onde de choc dans le royaume nordique par son ampleur, mais aussi parce qu'elle révèle le fossé entre la société norvégienne et les Samis, on disait autrefois Lapons, peuple indigène auquel appartiennent la plupart des victimes et des agresseurs. Une enquête avait été ouverte après la publication en juin 2016 dans le journal VG, Verdens Gang, de témoignages de 11 femmes et hommes disant avoir été sexuellement agressés sur ces terres vastes et reculées, où l'on vit encore largement de l'élevage de rennes et de la pêche. Dans un rapport publié hier, la police dit avoir exhumé 151 cas d'agressions sexuelles, dont 43 viols, une grosse centaine d'entre elles ont été classées le plus souvent pour cause de prescription, certains faits remontant à 1953. Les enquêteurs ont identifié 82 victimes âgées de 4 à 75 ans et 92 suspects, dont 3 femmes, certains tombant dans les deux catégories. Les centres d'évacuation et les hôtels de Bali, haut lieu du tourisme en Indonésie, se remplissaient hier à cause du risque d'éruption d'un volcan, contraignant les autorités à fermer l'aéroport international pour la deuxième journée consécutive. Des touristes bloqués cherchaient à se loger et des dizaines de milliers d'habitants effrayés ont fui leurs maisons aux alentours du mont Agung pour se réfugier dans ces centres d'évacuation. Les autorités qui ont décrété le niveau d'alerte maximum ont prévenu qu'il pourrait connaître une éruption majeure à tout moment. Le volcan émet de spectaculaires colonnes d'épaisses fumées grises depuis plusieurs jours et les avions devaient encore rester cloués au sol ce matin. Environ 40 000 personnes ont déjà quitté la zone. Les autorités estiment qu'un total de 100 000 habitants pourraient devoir s'éloigner. La dernière éruption du mont Agung en 1963 avait fait 1 600 morts. Des organisations amérindiennes ont dénoncé l'insulte raciste de Donald Trump après son allusion à une de ses opposantes surnommée Pocahontas, un commentaire qui a occulté la portée d'une cérémonie à la Maison-Blanche en l'honneur de 3 anciens combattants Navajos. En recevant ces Navajos engagés comme code talker, décodeur traducteur, lors de la Seconde Guerre mondiale, M. Trump rendait hommage aux centaines d'Amérindiens de différentes tribus qui ont servi dans l'armée américaine et utilisé leur dialecte ancestral comme code de communication indéchiffrable par les ennemis. Mais l'opération séduction est tombée à l'eau en une phrase. « Vous étiez ici longtemps avant nous. Même si nous avons une représentante au Congrès qui est, disent-ils, là-bas depuis longtemps. Il appelle Pocahontas », a lancé lundi Trump aux anciens soldats. Il visait la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qui revendique des origines Cherokees. Le Congrès national des Amérindiens a dit regretter l'utilisation par le président du nom de Pocahontas pour insulter un adversaire politique qui a occulté le véritable objet de la cérémonie. Petite musique, c'est du clavecin, ça, Jean-Sébastien?
Absolument.
Oui, alors c'était très agréable. Et puis, on y va avec les actualités culturelles. Beaucoup de nouvelles ce matin dans tous les journaux montréalais. D'abord, une triste nouvelle, lourde perte pour la communauté hip-hop de la capitale nationale. Le rappeur Infrac a été retrouvé mort chez lui à Québec, a annoncé hier le site de musique hhqc.com. Selon le peu d'informations qu'on a reçues, le MC originaire de Québec aurait été retrouvé mort dans son lit. Philippe Giroux, alias Infrac, était membre de North Siders et Face Cachée avec un K, groupe qu'il a cofondé au tournant des années 2000. Le chanteur était très apprécié de la scène hip-hop locale. Les réactions à sa mort n'ont pas tardé hier après-midi sur les réseaux sociaux. Nos plus sincères condoléances et sympathies à toute la famille et aux amis de Novan Infrac Giroux, RIP, a publié sur Facebook le collectif À la claire ensemble. Peace, Infrac ou Infrac. Repose en paix, frère, a publié Webster, également originaire de Québec. Au moment d'écrire ces lignes, les causes de la mort du chanteur et père de deux jeunes filles n'étaient pas connues.
Les tours, prendre les coups, l'argent facile, c'était pas les cours, toujours prêt, je tendais la joue. Faut jamais dire jamais, jamais perdre la face, faire tout ce qu'il fallait sans jamais faire de farce. On avait le fame, on avait le nom, on avait la tête dans les nuages, à la Stallone, jamais que Thomas, le pistolet sur le visage. On a parié, qui est tout double dans le baril, est mal élevé, mal fringué, veut le flinguer les billets. Chacun sa destinée, certains peuvent l'avoir défini.
Alors c'était Infrac qu'on entendait, Winfrac. Plus de films à micro-budget financé. Téléfilm Canada financera plus de 50 films chaque année dans le cadre du programme de production à micro-budget, ce qui représente plus du double du nombre de projets de la relève financés jusqu'ici. Téléfilm, qui célèbre cette année son 50e anniversaire, accordera aussi un financement automatique à la deuxième œuvre de cinéaste dont le premier film aura été récompensé sur la scène internationale. Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre de changements apportés au programme de production à micro-budget, soutenu par le Fonds des talents depuis sa création il y a 5 ans. Elle a beau avoir rendu l'âme en 2010, Lhasa de Cela, qui est née artistiquement dans le Mainland, sera sur toutes les lèvres dimanche prochain à l'occasion du concert d'ouverture du 5e Festival Aurore Montréal. L'événement parisien qui fait la part belle aux talents québécois a réuni une distribution métissée et signifiante pour honorer la chanteuse américano-mexicaine. Patrick Watson, Safia Nolin, Arthur H. Dom Lalena, La Nena, Luz Casal et Yves Desrosiers, entre autres admirateurs et ex-collègues musiciens. La Philharmonie de Paris, qui organise un week-end montréalais les premières semaines de décembre, hébergera le concert hommage. Il y a eu une conjoncture incroyable, note le directeur d'Aurore Montréal, Florent Bonny. On s'est rendu compte que ça avait encore plus de sens parce qu'il y avait une actualité discographique avec le 20e anniversaire du premier album « La Llorona ». Outre cette manifestation inédite, les scènes de Paname accueilleront une vingtaine d'artistes du 3 au 9 décembre, dont Keith Kuna, à la Claire Ensemble, Samuel et Émile Bilodeau. Toujours touchant de l'entendre. Faudra l'écouter au complet un jour, Jean-Sébastien. C'est le nombre de prix... Merci en passant pour ce clin d'œil. Alors, 5, c'est le nombre de prix qu'a remporté le collectif Hip Hop à la Claire Ensemble au Gala Alternatif de la musique indépendante, GAMIC, dimanche dernier. Déjà plébiscité par la disque, la troupe solde son année triomphale avec les Luciens, oui, en hommage à l'auteur du rap Amélie, Lucien Franqueur, de l'album Rap, Les Frères Cueilleurs, de la chanson Sacqueste et de l'artiste de l'année. Chocolat est reparti avec 2 statuettes, tout comme l'étoile montante Lydia Kipinski, qui a été préférée à Berries ou Berries dans la catégorie Révélation. Une 30aine de distinctions ont été remises lors de la soirée animée par le duo comique Sexe Illégal. La fête a été quelque peu assombrie par l'annonce de la fermeture du divan Orange, lieu culte de la scène alternative montréalaise, et j'ai entendu aussi entre les branches qu'il y a un collègue qui a remporté un Lucien, Jean-Sébastien. Alors, il s'agit de M. Gagnon?
Il s'agit de François Gagnon, un de nos collègues ici à Vuzévoix, dans la catégorie album punk.
Wow!
Pour l'album et le groupe qui s'intitule Fuck Tout.
D'accord. Alors, félicitations, François Gagnon. On va vous écouter.
We'll be right back.
Le hip-hop a fait mardi une démonstration de force en raflant un nombre impressionnant de nominations aux Grammy Awards, les récompenses de la musique américaine, alors que Jay-Z est sélectionné 8 fois, le record de cette édition. Rarement dans l'histoire des Grammy Awards, dont la cérémonie aura lieu le 28 janvier à New York, ce genre musical aura été autant mis à l'honneur avec, entre autres, Jay-Z, Kendrick Lamar, nommé 7 fois, et Childish Gambino, 5 fois. Du côté des Canadiens, Leonard Cohen est nommé dans la catégorie de la meilleure interprétation rock pour sa chanson « You Want It Darker » et pour la meilleure interprétation de style « American Roots » pour la pièce « Steer Your Way ». Les deux chansons sont tirées de son ultime album, incontestablement le titre de l'année avec ses 4,4 milliards de vues sur YouTube en 10 mois seulement depuis janvier. Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee est en compétition pour le disque de l'année et la chanson de l'année dans sa version enregistrée avec le chanteur Justin Bieber. En plus de Leonard Cohen et de Justin Bieber chez les Canadiens, en lice pour sa contribution sur Despacito, on trouve Alessia Cara qui pourrait repartir avec le Grammy de la chanson de l'année grâce à sa participation à 1-800-273-8255, une pièce du rappeur Logic dont le titre vient de la ligne de prévention du suicide américaine. La chanson est aussi nommée dans la catégorie du meilleur vidéoclip. La Canadienne pourrait aussi être sacrée révélation de l'année et remporter le trophée de la meilleure interprétation par un duo ou un groupe pop pour la chanson Stay qu'elle chante avec Z. Michael Bublé et Sarah McLachlan sont nommés dans la catégorie du meilleur album pop traditionnel, lui pour l'édition bonifiée de Nobody But Me, elle pour Wonderland, son 2e album de Noël, à surveiller donc la cérémonie des Grammy le 28 janvier. Allons-y avec les journaux régionaux. Sylvain Saint-Laurent dans Le Droit qui fait une chronique intitulée « Le Daniel Brière qu'on connaît ». On reconnaît bien notre Daniel Brière, notre entre guillemets. En feuilletant les pages de sa toute nouvelle biographie, on retrouve cet homme discret, un peu timide, qui aime sa famille par-dessus tout et qui demeure profondément attaché à la région où il a grandi. En lisant le récit de sa carrière dans le monde du hockey, on se rend vite compte qu'il ne comptait à peu près pas d'ennemis dans la Ligue nationale. Il n'était pas du genre à faire des vagues, notre Daniel. Même les mauvais coups qu'il raconte, comme s'il voulait pimenter son parcours, ne sont finalement pas si mauvais que ça. C'est vers la toute fin que les choses se gâtent un peu, quand vient le temps de raconter cette saison où il a réalisé son rêve de ticu en enfilant le chandail du Canadien de Montréal. On découvre le seul entraîneur avec qui le courant n'a pas passé. Michel Therrien devient de facto le seul méchant de ce livre d'environ 300 pages qui sera mis en vente dans les prochains jours. Daniel a toujours très bien compris le travail des journalistes et le fonctionnement de l'industrie des médias. Il sait qu'on se nourrit souvent de scandales et de controverses. Il devine qu'il devra consacrer une grande partie des prochains jours à parler de cette relation houleuse qui a un peu gâché son plaisir de porter la flanelle. J'ai été honnête du début à la fin. Je n'ai jamais voulu dévoiler ma vie privée. J'ai toujours voulu protéger mes enfants, mon ex-femme Sylvie, ma nouvelle conjointe Misha. Je savais très bien qu'en écrivant un livre comme ça, je devrais m'ouvrir, m'a-t-il expliqué mardi matin. Dans ce livre, je décris de façon très transparente ma relation avec tous mes entraîneurs. C'est le cas pour Lindy Ruff, ou Roof, pour John Stevens, pour Peter Laviolette, pour Patrick Roy au Colorado. À Montréal, mon entraîneur était Michel Therrien. Je devais continuer de parler de mes rapports avec lui de façon franche. Je ne veux surtout pas me réveiller dans 25 ans avec des regrets. Mon but n'était pas de faire mal paraître Michel. J'espère que les gens ne retiendront pas que ma relation avec lui. J'espère qu'il comprendra que j'ai déjà été un petit garçon de 10 ans qui était un fan fini du Canadien de Montréal. J'ai eu la chance, en fin de carrière, d'enfiler leur chandail en série éliminatoire et d'éliminer les Bruins de Boston dans un match numéro 7. J'ai pu faire la différence dans ce match-là. J'espère que les gens vont retenir ça également. Le Daniel que je connais n'est pas du genre à entretenir de vieilles rancunes, encore moins du type à régler ses comptes publiquement. Il jure avoir appris des trucs utiles au contact de Terry à Montréal. Ces éléments lui seront utiles dans sa prochaine carrière. On vous en a brièvement parlé dans les derniers mois. Les propriétaires des Flyers de Philadelphie lui ont confié le mandat de bâtir un club de hockey des ligues mineures pièce par pièce. Les Mariners, qui évolueront à Portland dans le Maine, se grefferont à la Ligue East Coast l'automne prochain. Brière a récemment embauché ses 3 premiers employés. Je veux vraiment qu'ils se sentent impliqués et qu'ils développent un sentiment d'appartenance fort. Ce sera leur équipe autant que la mienne, m'explique-t-il. Ça, c'est bien le Daniel qu'on connaît. Il y a une photo de Daniel Brière. Mr. Playoff, un livre écrit par Martin Leclerc qui raconte donc l'histoire de la carrière de Daniel Brière dans le monde du hockey. Dans le soleil, Yann Bussière, les écoles d'horticulture du Québec sont prises d'assaut par les étudiants depuis 2 ans, mais cet engouement n'aurait rien à voir avec la légalisation prochaine de la marijuana. C'est plutôt l'attrait pour l'agriculture biologique qui attirait les jeunes vers les formations horticoles. Nous notons une recrudescence depuis 2016, une hausse des demandes et des inscriptions. Nous avons maintenant 2 groupes plutôt qu'un seul à chaque année en production horticole, explique Mario Houd, responsable du programme d'horticulture au Centre de formation professionnelle Fierbourg à Québec. Les commentaires reçus ne lui laissent cependant pas croire que l'éventuelle légalisation de la marijuana en juillet 2018 a joué un rôle quelconque dans cette augmentation. Ce n'est pas l'information que je reçois des inscrits et de ceux qui font des demandes. Il y a plutôt un phénomène de masse, de retour à la terre, d'agriculture bio, explique-t-il. Même son de cloche à l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe qui offre aussi des formations en horticulture. Chez nous, ça a doublé depuis 2 ans. Nous avions 16 nouveaux inscrits par année, nous en avons maintenant 32, indique Alain Robitaille, enseignant en production horticole qui n'a pas non plus senti un effet marijuana dans son établissement. Dans le quotidien, sous la plume de Laura Lévesque, une épée de Damoclès, le flou entourant l'avenir des terrains riverains appartenant à Rio Tinto continue de nuire au marché immobilier, constate Riverain 2000. L'organisation qui regroupe 35 associations de propriétaires autour du lac Saint-Jean ne sait toujours pas si la multinationale compte continuer la location bail ou mettre en vente ces terrains dont la valeur frôle les 70 millions de dollars. Rio Tinto nous dit d'être patient et qu'on devrait avoir des réponses au début de 2018, mais ça traîne depuis 1 an. Les gens qui veulent vendre leur maison se font demander ce qu'il va arriver avec ces terrains. Les futurs acheteurs ne veulent pas payer 2 fois leur terrain et c'est bien normal, pointe le président de l'organisation Claude Deschênes. À l'heure actuelle, 1 500 riverains sont locataires de leur terrain en vertu de baux de 8 ans. Il y a 1 an, Rio Tinto a annoncé pour la première fois qu'elle envisageait revoir sa politique immobilière, inquiétant plusieurs Jeannois, souligne par voie de communiqué Riverain 2000. Et à propos des Grammy, dans la tribune, sous la plume de Steve Bergeron, un peu d'estrie aux Grammy. Il y aura un peu d'estrie à la prochaine cérémonie des prix Grammy. L'album Migration Blues d'Eric Bibb, en nomination dans la catégorie du meilleur album blues traditionnel, a été enregistré, mixé et matricé au studio Audiobeck de Larry O'Malley, situé dans les cantons de l'Est ou dans le canton de Hatley. Eric m'a téléphoné lui-même ce matin parce qu'il voulait que je sois le premier à apprendre la nouvelle. Quand il m'a dit ça, je sautais dans les airs, raconte Larry O'Malley. Dans la même catégorie que lui, il y a les Rolling Stones. Ça commence à être les ligues majeures. « c'est tout pour les voies de service quotidien de ce mercredi. Merci d'avoir été à l'écoute. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Et je vous retrouve à l'émission Les Paractualités dans deux petites minutes si vous nous écoutez en direct ou sinon demain à la même heure. Au revoir.